de vivre depuis le début de ce culte, Dieu présent parmi nous, qui vaut plus que n'importe quoi dans nos vies. Tu me fais des signes, Claude Alain, s'il faut que je bouge. J'ai des résonances. Tout l'or du monde. Qu'est-ce qui, dans ma vie, vaut tout l'or du monde ? J'ai réfléchi un petit peu en préparant cette intro et un bien matériel qui m'a marqué beaucoup plus que la valeur qu'il avait pour de vrai, ce fut mon premier scooter. Bobolide, hein ? 50 cm cubes, 60 km/h maximum, en descente avec le vent dans le dos, 5 minutes pour le démarrer au pied le matin dans le froid. Il valait en réalité pas grand-chose, matériellement. Pourtant, pour moi, 16 ans, dès que j'ai eu mon anniversaire, un 9 janvier, tout l'hiver, j'ai roulé avec, évidemment, parce que j'habitais à un village encore plus paumé que celui que j'habite aujourd'hui. J'habitais à Suchy, pas si proche de Yverdon, un bus toutes les heures, aux heures de pointe, c'est-à-dire qu'entre 9h et midi, il n'y en a aucun, entre 14h et 17h, il n'y en a aucun, et le dernier est à 19h. Donc ce scooter, c'est pas les 52 km volés qui me marquaient, c'était la liberté. Quand je l'ai eu, mais c'était l'autonomie. Je pouvais rentrer du volet à 20h sans que maman vienne me chercher. Je suis devenu un grand garçon, quoi. La valeur que ce scooter avait était inestimable pour moi. J'aurais pu payer 10 fois plus que les 2000 francs qu'il valait. Moi, je suis pas sûr que j'avais beaucoup plus que 2000 francs, en fait, mais j'aurais posé un rein, j'aurais fait quelque chose. Parce que parfois, la valeur de quelque chose vaut beaucoup plus que intrinsèquement ce qu'il vaut matériellement, mais sa valeur dépasse par ce qu'il représente pour nous, dans nos vies. Un attachement sentimental, des caractéristiques spéciales. J'aurais pu donner beaucoup d'exemples insolites d'objets absolument inutiles vendus à des prix exorbitants, ou des objets d'art par exemple, mais c'est pas le moment de cracher sur là, exactement. Une chaussure de foot, peut-être. J'ai quand même tapé les meilleurs exemples. 2 500 000 pour une chaussure de foot, juste la gauche. Hein. Puante, en plus, puisque le joueur avait fait toute la Coupe du Monde avec, mais puisque l'Allemagne avait gagné 1-0 en finale et que c'est sa chaussure qui a touché le ballon en dernier avant le but, 2 500 000. Bon, on voit bien que c'est pas la chaussure ou la transpi qui valait ça, mais ce que ça représentait pour l'acheteur. Et Jésus nous parle aussi, dans la Bible, de quelque chose qui vaut énormément, beaucoup plus que ce qui est estimable ou imaginable. Il nous explique la valeur que devrait représenter le royaume des cieux pour nous. Et je vous invite à lire ces 3 versets où il nous compare cette valeur dans 2 paraboles, en Matthieu 13. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. La valeur du royaume, quelque chose qui vaut tout l'or du monde et bien plus. Mais alors, pourquoi est-ce que le royaume des cieux vaut tant que ça? Et pourquoi Jésus nous explique cette facette dans ces 2 paraboles-là? Qu'est-ce que ça vaut, le royaume des cieux? Des idées? On est peu, on profite, je vous entends, on peut participer. Des idées? Pourquoi ce royaume des cieux a de la valeur dans vos vies? Vous avez des exemples? Éternel. Excellent. D'autres caractéristiques du royaume des cieux? Ou pourquoi ça vaut énormément? Il est central. On peut y accéder par grâce. Magnifique. En écho. Juste, excellent. Ce royaume des cieux nous apporte énormément de choses. Une plus-value incroyable, c'est génial ce royaume des cieux, non? Vous êtes d'accord? Ouais, il fait gris, on le sent. Hein. Mais plus que ce qu'il nous apporte d'exceptionnel, les commentateurs relèvent que ces 2 paraboles, elles sont en fait entourées de 2 paraboles, l'explication sur le blé est livré, qu'on a eu il y a 2 semaines comme prédication, et précède la parabole sur le filet, qui sont 2 paraboles qui nous parlent du jugement dernier. Et dans ces 2 paraboles, exactement les mêmes phrases sont utilisées par Jésus pour conclure ce que ces paraboles représentent. Jésus parle des anges qui jetteront ceux qui commettent le mal. Les 2 fois, il utilise exactement la même phrase, dans la fournaise de feu, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au verset 42, juste avant nos paraboles, et au verset 50, pareil, les anges jetteront dans le feu ceux qui commettent le mal, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Moins joyeux tout d'un coup, hein? Et pourtant, est-ce que ce n'est pas justement ça qui fait toute la valeur inestimable du royaume? En tout cas, ce que l'évangile de Matthieu semble nous présenter, c'est qu'au centre, il y a Jésus qui nous explique la valeur de ce royaume, et juste avant, juste après, on nous parle du jugement de Dieu. Peut-être justement parce que ce royaume nous fait éviter ce jugement et la colère de Dieu. Et j'étais exactement dans ce froid ou ce doute que je semble ressentir maintenant. Cette semaine, quand je préparais cette prédication, justement, je me suis dit, mais c'est pas si drôle, en fait, le royaume, si ça a une valeur estimable, c'est inestimable, c'est pour ce que ça m'apporte, quoi, ça doit être génial. C'est pas juste parce que ça m'évite la mort. C'est assez triste comme conclusion. Et pire que ça, je suis tombé sur une vidéo Insta, il y a 2 semaines, quand je préparais cette prédique. Et puis un gars qui, blessé des églises et des chrétiens, invitait tous ceux qui, comme lui, avaient été blessés à reprendre à zéro la définition de l'évangile, s'abonner à son compte, évidemment. Et puis, il nous présentait l'évangile d'une nouvelle manière, en disant, mais personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. On est tous patients au grand hôpital de l'amour. Dans l'amour, tout le monde est accepté. Et jusque-là, génial. Et je pense qu'il y a du très bon dans le fond de ce que cet homme voulait faire renouer des gens avec Jésus. Mais il concluait en disant, dans cet amour, avec un grand A, plus que de nous parler de Dieu ou l'évangile, tout le monde est accepté, oui, mais tout est accepté. Il n'y a plus de juste ou de faux, il n'y a plus de correct, d'incorrect. Tous les chemins mènent au même salut éternel et universel. Il n'y a plus de juste ou de faux, tout le monde a correct. Et là, je me suis dit, mince, parce que sa définition à lui, tout d'un coup, me paraissait beaucoup plus belle et alléchante que celle que la Bible me fait de l'Évangile, puisque lui appelait ça l'Évangile. Un amour où tout est accepté, tout le monde a raison. C'est parfait de prêcher ça en 2025, c'est exactement ce que la société veut entendre, ce que la société prêche. Et moi j'ai une Bible qui me parle d'un Dieu qui juge, d'un Dieu de justice, d'un Dieu qui se met en colère. Alors que juger, c'est un gros mot aujourd'hui, en 2025. Hein ? On juge pas, faut pas juger, t'es dans le jugement. C'est un gros mot, et moi on me parle d'un Dieu qui juge dans la Bible. Et la colère de Dieu, on n'est pas beaucoup plus copains avec ce concept. Même nous les chrétiens, hein, si avec Johan on vous dit prochaine série de prédiques, 15 prédiques sur la colère de Dieu. Amen. C'est le cri d'un pasteur qui a besoin de vacances. Sois béni dans ta semaine de vacances, Johan, dès demain. Mais c'est clair que si on vous annonce ça, c'est que on veut plus voir personne, quoi. Pourtant, ce serait hyper intéressant, hein. Mais j'ai lancé de défis à personne, promis. Mais alors, quelle valeur a vraiment ce royaume? Si on se recentre un petit peu, est-ce qu'il vaut vraiment mieux que tout le reste? C'est la question que je me suis posée avec ce gars qui me vendait du rêve. Et évidemment, les foules de commentaires qui disaient « T'as enfin tout compris, t'as révolutionné ma foi ». Qu'est-ce qui vaut ce royaume? Est-ce qu'il vaut mieux qu'autre chose? Et en fait, mettre en parallèle la valeur du royaume avec le jugement qui nous évite, c'est justement comprendre profondément quelle valeur il a. C'est pas un bonus, le royaume. C'est pas quelque chose qu'on a en plus d'une vie, voilà, bien bien réussi, on a plein de choses à faire de notre quotidien, et en plus, moi j'ai Jésus, voilà, c'est une petite cerise sur mon gâteau, mais on peut l'avoir ou ne pas l'avoir, c'est un petit bonus quoi, le royaume des cieux. Justement pas. Jésus nous met en parallèle ici le jugement dernier pour nous dire, c'est pas ton bonus ou une pièce de plus dans ton yacht, c'est ton canot de sauvetage, le royaume. C'est la mort ou ça? En dehors de ce royaume, c'est les pleurs et les grincements de dents pour l'éternité. Sans le royaume, pas de survie. Et là, tout d'un coup, on comprend pourquoi ce royaume a une valeur si inestimable, si grandiose. Parce que son amour gratuit, on l'a dit, sa grâce, vient nous chercher alors que nous étions destinés à rien d'autre que la mort, destinés à la colère de Dieu. On méritait rien d'autre. Et il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul chemin pour s'en sortir, c'est le royaume des cieux, appartenir à ce royaume, en suivant Jésus. Et ça, ça en fait une valeur incroyable. J'étais destiné à la colère de Dieu. Et j'ai trouvé un texte qui nous résume ça, qu'on a même lu la semaine passée dans l'étude biblique, la grande histoire, et ça m'a fait tilt, ça résume exactement ce cheminement de pensée où on réalise tout d'un coup la valeur qu'a la grâce de Dieu sur nous. C'est pas juste un bonus, un plus dans une vie où il y a plein de choses à faire, c'est la base. Et à partir de cette assurance de faire partie du royaume, oui, évidemment j'ai plein de choses à construire et à travailler, à pratiquer, mais j'appartiens au royaume et ça a une valeur inestimable. C'est dans Éphésiens 2, je vous lis rapidement ce texte qui nous résume ce point. « Quand vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. » Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère de Dieu, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et il fait asseoir avec lui, tous les sauvés dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait ça afin de nous montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. Je ne voulais pas mettre le texte à l'écran, parce que l'idée, ce n'est pas d'être trop proche de tout ce qui est écrit, mais d'avoir ces points en tête. Nous étions destinés à la colère. On était perdus. Nous étions morts, le texte nous dit même. Mais on est sauvé par grâce. Et plus qu'un simple canot de sauvetage, en plus, on est établi dans le royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas juste un bonus, mais ce royaume me sauve. Je lui dois la vie, mon salut éternel. Et en plus, il y a ensuite des merveilles à y découvrir. Mais avant tout, ce royaume me sauve. Alors, une des merveilles que ce texte nous invite à découvrir, c'est la joie du royaume. On lit dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, ils ont découvert ce trésor caché, cette perle de grande valeur, et ils sont dans la joie. La joie du royaume, une des nombreuses choses à découvrir avec Dieu en étant unis à lui. Parce que ce royaume, ce n'est pas juste la moins pire des solutions, c'est la mort ou ça, donc j'ai choisi ça, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut, non. Évidemment, c'est la mort ou ça. Mais en plus, Dieu te fait la bonté de te faire découvrir sa grandeur et ses merveilles. Alors, dans mon assurance d'appartenir au royaume, je peux développer de la joie du royaume. La Bible nous invite, nous appelle à la joie, plus que simplement cette parabole. À plusieurs reprises, lettre aux Philippiens par exemple, Paul nous dit, très simple, « Soyez toujours dans la joie ». En étant unis au Seigneur. D'autres traductions disent « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Il te sauve. C'est une raison d'être joyeux tous les jours. Et il finit, je le répète, soyez toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Sacré psychothérapeute, Paul. Hein. T'es triste? Arrête. Sois dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette joie du royaume, si on doit l'être toujours, en tout temps? Ça signifie que c'est peut-être plus que ce que la joie évoque pour nous aujourd'hui, une simple émotion qui nous tombe dessus, voilà, par des événements extérieurs. Eh ben oui, je suis tout d'un coup dans la joie. Mais la Bible nous invite plutôt à cultiver cet état d'esprit, la joie du royaume dans ta vie. Il y a un type de caractère hein, qui est très branché joie comme simple émotion. Hein, pour ceux qui sont adeptes des personnalités par couleur, la slide est un indice. Pour les autres, on connaît tous hein, le clown autour de nous, celui qui parle un peu plus fort, qui aime bien rigoler, qui sourit toujours, même quand il n'y a pas grand-chose pour sourire, qui est très expansif comme ça. Si vous n'avez pas une personne dans votre entourage en tête, c'est que c'est vous, la personne de votre entourage. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, changez pas, on est ensemble, c'est très bien. Je le dis parce que c'est plein d'autodérision, en l'occurrence. Mais ça peut être fatigant. Pour les autres autour, déjà, quelqu'un qui est tout le temps trop expressif, trop joyeux, trop souriant, des fois, calme-toi, juste, c'est pas le moment du tout. Ayez compassion de Johan, hein, bientôt un an jour pour jour, qu'il en supporte un au bureau. Mais même pour nous, ceux qui tendent à être joyeux de manière émotive, toujours, c'est fatigant aussi. Et si c'est vous, la personne de votre entourage, alors vous savez que des fois, il y a des énormes downs, des besoins où juste la vie fait que, ok, je comprends que c'est pas possible. L'émotion joyeuse 24 heures sur 24. On a besoin de respirer aussi. Et tant mieux parce que c'est pas ce que Jésus nous appelle à être, hein, les bouffons du roi ou les clowns du village. Pas du tout. L'état d'esprit de la joie du royaume, c'est quoi? Bah, c'est peut-être justement que quand dans ce monde, il y a des situations qui méritent uniquement que je pleure, ou que je me mette en colère, ou qui m'attristent profondément. Eh bien, Jésus me fait miroiter une autre réalité. Jésus me fait miroiter quelque chose auquel je peux m'accrocher pour me relever. Quelque chose qui, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, ça mérite de me rendre joyeux. Le royaume des cieux. Il me fait miroiter qu'importe ce qui se passe dans mon quotidien ou dans ma vie en général, une espérance à laquelle je peux m'accrocher. Et une espérance, un royaume qui, quand il est rendu vivant dans ma vie, produit la joie en moi. Et je peux m'en réjouir en tout temps. Mes gloires, mes échecs, les malheurs de ce monde, tout pâlit devant la valeur de ce royaume. Si on est réellement visité par le Saint-Esprit qui nous révèle la valeur inestimable que ça a, ce Dieu sauveur et Seigneur, appartenir à son royaume, alors oui, l'Esprit peut produire en moi cette joie. On lit aussi en Galates 5, hein, les fruits de l'Esprit, la joie en fait partie. L'Esprit vient travailler cela en moi. Et elle ne se matérialise pas forcément par des blagues et un sourire dans plein de moments où ce n'est pas du tout bienvenu, mais ça peut se matérialiser par l'adoration de celui qui m'a sauvé, quand tout me pousserait à déprimer, par la reconnaissance de ce à quoi il me fait goûter, la satisfaction même. Je parlais de juger qui est un gros mot pour nos contemporains. Satisfaction, c'est pas loin d'être une insulte aussi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ça? Toujours plus. Plus d'argent, évidemment, plus de plaisir, plus de bien-être, plus de loisirs. La Bible nous appelle à la croissance dans plein de domaines, mais aussi, pourquoi pas, à la satisfaction de temps en temps. La reconnaissance. Parce que ça permet aussi de faire travailler cette joie en nous, réaliser tout ce que Dieu nous fait déjà vivre. Ça peut se matérialiser en encouragement à mon frère dans la foi, à mon prochain en chemin. Cette joie est à cultiver dans nos vies. Jésus nous invite à lever les yeux et à appréhender ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, ce qu'on lit, ce qu'on reçoit, sous un autre angle. On lit aussi quelque chose dans ce sens, dans la lettre aux Romains, quand Paul dit « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Ce n'est pas les choses de cette vie qui importent. Pourtant, manger et boire, on le sait tous, on en a besoin profondément. Mais ce n'est pas nos besoins ou nos plaisirs de ici-bas qui importent dans le royaume des cieux. C'est une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Alors soyons invités à nous poser la question, qu'est-ce que le royaume des cieux, qu'est-ce que l'assurance d'appartenir à ce règne glorieux et inestimable produit en moi comme réaction? Est-ce que moi aussi je réagis par de la joie, comme les deux personnages qu'on voit dans les paraboles de ce matin? Est-ce que je vois la joie du royaume dans ma vie? Est-ce que je cultive cet état d'esprit? Est-ce que j'invite l'esprit à cultiver cela en moi? J'adorerais terminer ce message maintenant. Une valeur inestimable et la joie de l'esprit dans ta vie. C'est cool. Malheureusement, il reste dans les deux paraboles, j'ai pas réussi à m'en détacher, une phrase, les deux fois. Hein, les deux paraboles, ils découvrent, alors de manière différente. Il y en a un qui tombe dessus et l'autre qui a cherché peut-être toute sa vie une perle de si grande valeur et enfin la trouve. On y voit aussi là le mystère de comment Dieu se révèle aux gens. Il y en a que ça leur tombe dessus, un rêve. Et puis il y en a d'autres qui cherchent et ne comprennent pas pourquoi il n'y a toujours pas le déclic. Il y a aussi une part de confiance là de comment Dieu établit son royaume. Et ensuite, quand ils l'ont découvert, qu'ils comprennent la valeur inestimable que ça a, ils sont dans la joie. Et troisième étape, ils attendent que l'argent leur tombe du ciel, évidemment. Et non, tous les deux entrent dans une démarche active pour pouvoir acquérir ce qu'ils ont découvert. Ils mettent leur vie entière dans la balance. Ils vendent tout ce qu'ils possèdent. Là encore, les deux fois, la phrase identique. Il va et vend tout ce qu'il possède. Aucune hésitation, aucune retenue, ni pour l'ouvrier qui avait pourtant travaillé toute sa vie et qui n'est certainement jamais roulé sur l'or, et qui là laisse tout pour pouvoir acheter ce champ et acquérir ce trésor. Pareil pour le marchand, pour qui toute sa vie il fallait peser le pour et le contre, regarder qu'est-ce qui vaut plus ou moins, est-ce que ça vaut la peine que j'achète pour que je revende. Les deux choix sur le plan humain sont complètement déraisonnables. Tout ce que tu as amassé vaut cette nouvelle découverte. Vraiment. Et bien Jésus nous dit que oui, toute ma vie, tout ce que je possède, tout ce que j'ai et tout ce que je suis ne pèse pas dans la balance pour faire partie du royaume des cieux. Et le sacrifice est fait par plaisir. Les commentateurs relèvent ça et ça me plaît de se dire si vraiment j'ai découvert la valeur du royaume des cieux et que la joie du royaume est en moi, alors par plaisir, il est automatique le sacrifice qu'il faut faire. Tout mérite d'être laissé pour lui. Alors, juste une précision importante à faire maintenant, qu'il n'est pas question ici de mérite personnel ou d'acheter notre salut, ni même de dépouillement matériel, évidemment. Rien de ce que nous faisons ne peut acheter ou nous faire mériter la grâce de Dieu. Dans ces paraboles, le langage de l'achat exprime plutôt l'enthousiasme pour pouvoir se tourner vers Dieu. Une réponse sincère, urgente, pleine de foi, du cœur entier à la découverte de la libre grâce de Dieu. Alors si on n'avait que ces deux paraboles, on pourrait se dire facile. Facile, les deux le font par joie, facilement. Aucune question, pourquoi moi ? J'ai des questionnements. Heureusement, la Bible nous montre, par en tout cas un contre-exemple, sur lequel on se penche maintenant, que ce n'est pas si facile du tout. Le jeune homme riche, pour ceux qui auront déduit de cette adaptation culturelle italienne au jeune homme riche, pas possible de laisser la Ferrari pour Jésus. Lui, justement, peut-être bien qu'il n'avait pas compris la valeur inestimable qu'avait ce royaume. Et obéir à Dieu, toutes les lois, il les avait respectées, ça n'avait pas produit la joie que ça doit produire que d'obéir à Dieu, que de se savoir aimer par lui, de se savoir lui appartenir. Alors si on ne connaît pas la valeur du royaume des cieux et que la joie de l'esprit ne nous travaille pas, évidemment, impossible de passer à la case sacrifice. Inhumain. Il repart donc tout triste à la fin de ce récit. Trop dur. Et Jésus ne nous dit pas que c'est facile. Quand il part, il dit justement tellement difficile pour un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Et on voit les disciples d'ailleurs songeurs quand il part. Et il y a une phrase qui nous dit « Eux, justement, avaient tout laissé pour suivre Christ. » Alors moi, quelle est ma part ? Si on l'a dit, il n'est pas question de mérite personnel ici pour mériter le royaume. Il y a bien un chemin de croix auquel Jésus m'invite. Reconnaître la valeur inestimable du royaume. Cultiver la joie de ce royaume dans ma vie et la réorienter à sa lumière. Et qu'importe si cette réorientation implique des renoncements. Parfois, peut-être pas, juste lever les yeux à Dieu et se réjouir de voir à quel point on est dans ses traces. Et peut-être simplement un petit détail de se dire « Ah bah oui, c'est vrai, ça fait du bien » de lever les yeux et de se rappeler qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui mérite mon énergie. Et ces paraboles nous invitent à une réponse qui dirait que le royaume de Dieu mérite une réponse entière et sincère de notre cœur. Alors en conclusion, je nous invite à une petite introspection, une réorientation. Dans une marche, un raid pour ceux qui ont fait les flambeaux ou de la rando pour le groupe de randonneurs. On le sait, c'est pas possible de tout le long marcher uniquement avec la carte devant les yeux ou Google Maps pour ceux de la génération suivante. Évidemment, on marche sur le chemin. Moi, le téléphone, au bout d'un moment, il me saoule. Je le mets dans le sac, je regarde les petits triangles jaunes, losanges jaunes. Et on avance. Et dans la vie aussi, c'est parfois comme ça. Et il est bon de pouvoir marquer une pause et de se rappeler quel itinéraire on suit. Ce royaume, l'itinéraire que Jésus nous propose, a tellement de valeur. Et s'il a autant de valeur pour vous, alors osons se poser la question, où en sommes-nous ? Est-ce que les promesses de cet itinéraire, ce qu'il me promet pour tout le chemin et pour l'arrivée, est-ce que ça me met dans la joie ? Et est-ce qu'il y a des petits tronçons où peut-être là je me suis un tout petit peu égaré, ou simplement des choses dans mon sac que je porte qui ne sont pas compatibles avec l'itinéraire que Jésus me propose ? Ou alors même des choses trop lourdes que je n'ai plus besoin de porter maintenant que je suis sur cet itinéraire, maintenant que je fais partie de ce royaume. Appartenir au royaume de Dieu, suivre l'itinéraire de Jésus, c'est gratuit, offert par le sacrifice de Christ à la croix. Et une fois qu'on a accepté Jésus dans notre vie, la conséquence est directe. Tu es sur le bon itinéraire, tu as le tracé sur la carte. Tu sais que tu fais partie du royaume, tu le possèdes, pour reprendre le langage de ces paraboles. Tu es enfant de Dieu, c'est un état, tu en es certain. Alors si par hasard tu le savais pas ou tu as envie de refaire ce choix, alors ouais, on est invité à se repositionner ce matin et à décider quel royaume est-ce qu'on veut suivre. On l'a vu, il n'y a que deux possibilités, le royaume des cieux ou l'autre. On peut prendre le temps dans la suite de ce culte, pendant la scène, de redire à Dieu qu'on le choisit, de redire à Dieu qu'on veut faire partie de son royaume et qu'on en est reconnaissant. Et si jamais c'est la première fois que tu fais ce choix, parle-en à quelqu'un autour de toi à la fin du culte ou vers un équipier de prière. Et pour ceux qui savent déjà avoir fait ce choix, je sais à quel royaume j'appartiens. Alors si le royaume, comme pour les personnages des paraboles, c'est ce qui a le plus de valeur dans ma vie, est-ce que ça se voit dans mes réactions ? Est-ce que je cultive la joie de l'esprit et ses fruits dans ma vie ? Est-ce que ça se voit dans mes actions ? Est-ce que ma manière d'utiliser mon temps libre, mes finances, mon travail, ma réputation, ma manière de diriger ma vie, ma famille, mon célibat, mon couple, voilà, reflète la valeur que je veux accorder au royaume de Dieu. Jésus nous invite ce matin à réévaluer notre échelle de valeur, à dire qu'est-ce qui vaut le plus dans ta vie ? Jésus nous dit que ce qui vaut le plus la peine, c'est le royaume des cieux. Alors prenons conscience d'appartenir à un royaume qui a tant de valeur et osons-nous poser les questions. Est-ce que notre vie reflète vraiment la valeur inestimable que je découvre, que je vis de ce royaume ? Ou est-ce que Dieu m'invite à réorienter mon regard, mes réactions, mes actions, ma vie tout entière ? Pour révéler son royaume et sa valeur inestimable à travers ma vie. Je nous laisse avec ces quelques réflexions.